Chapitre 15. Cela fait quelques heures maintenant, mais j'ai vraiment envie de savoir. Comment fait-il pour modifier le tunnel? Il a besoin d'une énorme pression atmosphérique pour rester en vie, une pression que ma coque ne pourrait pas supporter. Et Rocky ne survivrait pas dans le vide. Comment s'y prend-il pour faire des modifications dans ce cas? J'entends des bruits métalliques à l'extérieur. Je n'en peux plus. Il faut que je sache. J'entre dans le sas pour regarder par le hublot. Le robot du spot A a retiré l'ancien tunnel pour en installer un nouveau. En vérité, ce n'est pas très spectaculaire. Le vieux tunnel dérive dans l'espace, il a fait son temps. Le robot maintient le nouveau contre la coque du spot A, où il applique de la colle à base de xénonite. Comment les Iridiens ont-ils piloté un vaisseau à une vitesse proche de celle de la lumière sans l'aide d'ordinateur? Naviguent-ils à l'estime? Ils sont très forts en calcul mental, c'est vrai. Peut-être n'ont-ils jamais eu besoin d'inventer l'ordinateur. Mais quand même, ils ont beau être forts en maths, il y a des limites. Les bruits métalliques cessent. Je regarde de nouveau par le hublot. L'installation est terminée. Le tunnel ressemble beaucoup à son prédécesseur, sauf qu'il est équipé d'un plus gros sas. Le mur diviseur est presque entièrement constitué d'une cabine largement assez spacieuse pour abriter Rocky. Mais pas moi, remarquai-je. Je ne suis pas prêt de visiter le spot A. J'essaie de ne pas laisser cette pensée me ronger. Lui va visiter le vaisseau d'une autre espèce intelligente. Alors pourquoi n'en ferais-je pas autant? Il n'y a plus de poignée, ni de rampe dans la moitié de tunnel de Rocky, mais un unique rail en métal courant le long de son axe, traversant la paroi transparente et conduisant jusqu'à la porte de mon sas. À l'opposé de ce rail, j'avise ce qui ressemble à un conduit constitué de la même xénonite brun moucheté que le tunnel. De section carrée, il court également le long du passage. Dans un bruit de soufflerie, sa moitié de tunnel se remplit soudain de brume. Et puis c'est autour de ma moitié. Voilà à quoi sert ce fameux conduit. Il s'agit de doter le tunnel de l'atmosphère adéquate. Je suis heureux que Rocky dispose d'un stock d'oxygène suffisant pour faire fonctionner ce dispositif. La porte du spot A s'ouvre et Rocky émerge dans sa sphère géodésique. Il porte ce qui s'apparente à une combinaison, une ceinture autour de la partie basse de sa carapace et sa climatisation sur le dos. Dans deux de ses mains, il tient des blocs de métal, les autres étant libres. Comme il me fait signe, je lui réponds. La boule de l'espace, comment l'appeler autrement, flotte, puis se colle au rail métallique. Hein? Ah! Alors je vois. La boule ne s'est pas déplacée par magie. Ces blocs tenus par Rocky sont des aimants très puissants. Le rail est magnétique, manifestement. Sans doute s'agit-il de fer. La boule roule sur le rail et entre dans le sas central. À l'aide de ses aimants, Rocky manipule des commandes en métal à travers la coquille en xénonite. C'est un spectacle réellement fascinant. Après force sifflement et bruit de pompe, il repousse une plaque commandant l'ouverture du sas dans ma moitié de tunnel. De là, il roule le long du rail jusqu'à ma porte. Je lui ouvre. Salut.
Salut.
Dois-je vous porter à partir de maintenant? C'est le plan?
Oui, portez-moi. Merci.
J'agrippe la sphère avec circonspection, craignant qu'elle soit chaude, mais ce n'est pas le cas. En plus du reste, la xénonite est un excellent isolant. Je ramène donc Rocky dans mon vaisseau. Il est lourd, le bougre, bien plus que je ne l'aurais cru. S'il y avait de la pesanteur, je serais probablement incapable de le soulever. En tout cas, il a beaucoup d'inertie. Je le manipule en grognant. C'est un peu comme pousser une moto au point mort. Sérieusement, il est aussi lourd qu'une moto. Je ne devrais pas être étonné. Il m'a décrit sa biologie, la présence de métal dans son corps. Il a du mercure dans les veines. Comment pourrait-il ne pas être lourd? Vous êtes très lourd. J'espère qu'il ne comprend pas. Hé, gras double, t'as besoin d'un régime.
Masse égale à 168 kg.
Rocky pèse plus de 300 livres. Waouh ! Vous êtes beaucoup plus lourd que moi.
Votre masse est ? Question.
Peut-être 80 kg.
Humain, très faible masse.
Je suis principalement constitué d'eau. Bref, voici la salle de contrôle. Je commande le vaisseau d'ici.
Compris.
Je le pousse devant moi et nous descendons dans le laboratoire. Il s'agite dans sa boule. Il a tendance à beaucoup s'agiter lorsqu'il découvre quelque chose. Je me demande si cela ne l'aide pas à mieux voir avec son sonar. Un peu comme un chien pencherait la tête en arrière pour obtenir plus d'informations sonores. C'est mon laboratoire. Je fais toutes mes expériences scientifiques ici.
Pièce très 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 intéressante.
Quintile, une octave au-dessus de la normale.
Vouloir tout comprendre.
Je répondrai à toutes vos questions.
Plus tard, autre salle.
Oui, il y a une autre salle, confirmai-je avec emphase. Je le pousse jusqu'au dortoir, lui imprimant une très faible vélocité pour lui permettre de tout voir depuis le centre de la pièce. Je dors ici. Enfin, je dormais ici avant que vous me demandiez de dormir dans le tunnel.
Vous dormir seul ? Question.
Oui.
Moi aussi dormir seul nombreuses fois. Triste, triste, triste.
Il ne comprend pas. La peur de dormir semble profondément ancrée dans son cerveau. Intéressant. Peut-être cela explique-t-il leur instinct de meute. L'instinct grégaire est à la base de l'intelligence. Si je suis en mesure de communiquer avec Rocky, c'est peut-être bien grâce à ce sommeil si particulier et incompréhensible pour moi. Bon, mon explication est simpliste, pas très scientifique. Des milliers de choses ont fait des Éridiens des créatures intelligentes et conscientes. Le sommeil est anecdotique dans cette histoire. Mais je suis scientifique. Je suis fait pour créer des théories. J'écarte un panneau de la réserve et je plaque la boule contre l'ouverture. Là, c'est une petite réserve.
Compris.
Vous avez tout vu, dis-je en soulevant la sphère. Mon vaisseau est bien plus petit que le vôtre.
Votre vaisseau possédait tellement de science. Vous montrez-moi objet salle de science, question.
Bien sûr. Je pousse la boule dans le laboratoire. Il s'agite à l'intérieur, se tourne de tous les côtés. Je flotte avec lui jusqu'au centre de la salle, où je saisis le bord de la table. Je plaque la boule contre cette dernière. Comme la plupart des tables de labo, celle-ci doit être en acier. Vérifions-le. Essayez vos aimants, l'instruis-je. Il pose un de ses aimants sur la paroi intense de sa sphère. Avec un clong métallique, l'aimant s'accroche. Rocky est fermement ancré désormais.
Excellent,
s'exclame-t-il. Usant de ses aimants, il roule sur le plateau de la table, revient en arrière. Ce n'est pas très gracieux, mais cela fonctionne. Au moins, je n'ai plus besoin de le maintenir en place. D'une poussée sur la table, je m'éloigne du centre du laboratoire et je prends position en bordure de la salle. Il y a beaucoup de choses ici. Que voulez-vous savoir ? Il indique aussitôt une direction, se fige. Puis il désigne autre chose, s'immobilise. On croirait un enfant dans un magasin de friandises. Finalement, il s'arrête sur l'imprimante 3D.
Ceci, qu'est-ce que ceci ? Question.
Ça produit deux petites choses. J'entre une forme dans l'ordinateur qui ordonne à la machine de la produire.
Possibilité essayée ? Question.
Il nous faudrait de la pesanteur.
Explication rotation vaisseau ? Question.
Exactement. Il est vif, le bougre. La rotation produit de la pesanteur pour les expériences scientifiques.
Rotation impossible si tunnel attaché.
Effectivement. Il réfléchit.
Vaisseau humain possédait plus de science que vaisseau Éridien. Meilleure science. Moi apporter mes affaires ici. Détaché tunnel. Rotation possible pour science. Vous et moi faire science pour tuer astrophage. Sauver Terre. Sauver Éride. Bon plan ? Question.
Oui, c'est un excellent plan. Et votre vaisseau ? Je tapote la bulle en xénonite. La science humaine est incapable de produire de la xénonite.
La xénonite est plus solide que tous les matériaux humains.
Apporter matériaux pour produire xénonite, toutes les formes possibles.
Compris. Vous voulez aller chercher vos affaires maintenant?
Oui.
Je viens de changer de statut. L'unique survivant d'une mission spatiale va accueillir un colloque un peu bizarre. Je suis curieux de voir comment les choses vont tourner.
Vous connaissez la docteure Lamaille? Me demanda Strat.
Je rencontre tellement de gens ces temps-ci, répondis-je en haussant les épaules.
Le porte-avions avait son infirmerie, mais elle était réservée à l'équipage. Celle-là était un centre médical spécial installé dans le hangar secondaire. La docteure Lamaille joignit ses mains et s'inclina légèrement.
« C'est un plaisir de vous rencontrer, Dr. Grace. »«
Merci également. »«
J'ai demandé à Madame Lamaille de s'occuper de la partie médicale du projet, » expliqua Strat. « Elle était à la tête de l'équipe qui a développé la technique de coma que nous allons utiliser. »«
Heureux de le savoir, » dis-je.
« Vous êtes thaïlandaise, je présume. »
« En effet. Malheureusement, notre entreprise n'a pas survécu. La technologie est efficace sur une personne sur 7000 seulement, d'où un potentiel économique très limité. Je suis très heureuse que mes recherches puissent aider l'humanité.
« C'est le moins qu'on puisse dire, » commenta Strat. « Votre technologie va peut-être nous sauver. »«
Votre compliment est un peu exagéré, »
se défendit Lamaille en détournant les yeux. Elle nous précéda dans son laboratoire. Une dizaine de box accueillaient des machines légèrement différentes les unes des autres, reliées à des singes inconscients.
« Je suis obligé d'être ici, » demandai-je en regardant ailleurs. « Veuillez excuser le Dr. Grace. Il est un peu tendre sur certains sujets. »«
Ça ira, merci. Je suis conscient de la nécessité de faire des essais sur les animaux, mais j'aurais préféré ne pas les avoir sous les yeux. »
Lamaille ne dit rien. « Dr. Grace, cessez de faire votre chochotte. Dr. Lamaille, dites-nous tout. »
Lamaille montra une paire de bras robotiques surplombant le singe le plus proche.
« Nous avons développé ces stations de monitoring et de soins lorsque nous pensions devoir traiter des dizaines de milliers de patients dans un état de coma. Cela ne s'est pas vraiment passé comme prévu. »«
Ça fonctionne ?» s'enquit Strat.
« Le design originel n'était pas censé être totalement autonome. Il devait se charger des tâches routinières. En cas d'imprévu, un médecin humain aurait été alerté. »
Elle marchait devant l'alignement de singes.
« Nos versions entièrement automatiques s'améliorent de jour en jour. Cette armature est commandée par un logiciel très perfectionné, développé à Bangkok. Elle prendra en charge le sujet dans le coma, surveillera ses paramètres vitaux, prodiguera les soins nécessaires, le nourrira, gérera ses fluides. La présence d'un véritable médecin serait préférable, mais nous sommes vraiment très satisfaits de nos résultats.
« Ce sont des intelligences artificielles ?» demanda Strat.
« Non, » répondit Lamaille. « Nous n'avons pas le temps de développer un réseau neuronal complexe. C'est géré par un algorithme procédural, tout simplement. Complexe, il est vrai, mais on est loin de l'IA. Nous avons besoin de soumettre ces machines à une myriade de tests pour voir exactement comment elles réagissent. On ne peut pas faire ça avec un réseau neuronal. »
« Je vois. »
« Notre plus grande réussite, cependant, a coûté la vie à notre compagnie, »
poursuivit Lamaille en désignant un graphique sur le mur.
« Nous avons réussi à isoler les marqueurs génétiques, indiquant une résistance au coma de longue durée. Une simple prise de sang suffit à les reconnaître. Comme vous le savez, des examens à grande échelle ont mis en évidence le fait que très peu de gens possèdent ces gènes. »
« Ces gens sont peu nombreux, mais vous pourriez quand même les aider, » intervins-je. « Une personne sur 7000, c'est mieux que rien. »
« Malheureusement, non, » répondit Lamaille en secouant la tête. « Car il s'agit d'une intervention élective. Il n'est pas nécessaire, médicalement parlant, d'être inconscient pendant une chimiothérapie. Au contraire, cela rend la procédure un peu plus risquée. Bref, cela ne ferait pas assez de clients pour faire vivre une société. »
« Faites-moi la prise de sang, » ordonna Strat en relevant sa manche. « Je suis curieuse. »«
Comme vous voudrez, Madame Strat, »
acquiesça Lamaille, prise de court. Elle alla chercher un nécessaire de prélèvement sur une desserte.
Vu l'importance de sa position, cela faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas accompli ce genre de basse besogne médicale. Mais Strat était Strat. La maille était habile de ses mains, cependant. Elle trouva la veine de Strat du premier coup. Le sang coula dans le tube. Lorsque ce fut terminé, Strat abaissa sa manche.
« Grace, à votre tour. »«
Pourquoi ? Je ne suis pas volontaire. »«
Pour l'exemple, je veux que tous ceux qui participent au projet, de près ou de loin, se fassent tester. Les astronautes sont une espèce rare, et un 7/1000 d'entre eux seulement possède les gènes qui nous intéressent. Il se peut que nous n'ayons pas assez de candidats qualifiés. Nous devons nous préparer à élargir le pool. »
C'est une mission suicide, lui fis-je remarquer. Ça ne va pas se bousculer au portillon, croyez-moi.
Eh bien, justement, vous vous trompez.
La maille me piqua le bras. Je détournai les yeux. J'ai tendance à friser le malaise vagal lorsque je vois mon sang gicler dans un tube. Comment ça, je me trompe?
Nous avons reçu des dizaines de milliers de candidatures, et tout le monde comprend bien qu'il s'agira d'un voyage sans retour.
Waouh ! Combien parmi eux sont fous ou suicidaires ?
Un paquet, sans doute, mais il y a aussi des centaines d'anciens astronautes dans le tas. Les astronautes sont des gens courageux, disposés à risquer leur vie pour la science. Nombre d'entre eux sont prêts à se sacrifier pour l'humanité. Je les admire.
Des centaines, répétai-je. Pas des milliers. Nous aurons de la chance si un seul d'entre eux possède les bons gènes.
Nous comptons déjà beaucoup sur la chance. Alors espérons que nous en aurons un peu plus encore.
Après l'université, ma copine Linda s'est installée chez moi. Notre relation n'a duré que 8 mois après cela. Un vrai désastre. Ce n'est pas notre sujet, cependant. Quand elle a emménagé à la maison, j'ai été stupéfait de voir la quantité d'objets dont elle ne pouvait pas se passer, et dont elle jugeait la présence nécessaire dans notre petit appartement. Il y avait des boîtes et des boîtes de trucs accumulés pendant des années passées à ne rien jeter. Comparée à Rocky, cependant, Linda était spartiate. Mon alien a apporté tellement d'objets que je ne sais plus où les mettre. Le dortoir tout entier est plein jusqu'à la gueule de ce qui ressemble à des sacs marins, taillés dans un tissu inconnu, variant entre boue claire et boue foncée. Lorsque l'esthétique ne compte pas, on obtient les couleurs produites par le processus industriel. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans ces sacs. Rocky ne m'explique rien. Chaque fois que je lui demande si c'est terminé, il va chercher un autre sac. Enfin, c'est moi qui fais tout le boulot. Lui reste dans sa boule magnétiquement reliée au rail métallique pendant que je travaille. Là aussi, il me fait beaucoup penser à Linda. « Il y a beaucoup de choses, » remarquai-je.
« Oui, oui, besoin de tout. »«
Vraiment beaucoup ?»«
Oui, oui, compris. » « Objets dans tunnel, derniers objets. »«
D'accord, » grommelai-je. Je retourne en flottant dans le tunnel pour récupérer les derniers conteneurs souples. Je manœuvre dans la salle de contrôle, puis dans le labo, afin de les déposer dans le dortoir. Je trouve un endroit où les coincer. Il ne reste presque plus de place. Je me demande vaguement quelle masse nous venons d'ajouter à mon vaisseau. Je parviens à garder un espace libre autour de mon lit. Rocky choisit un carré de plancher où dormir. Le reste du dortoir est un chaos de colis empilés et sécurisés avec du ruban adhésif, collés sur les parois, dans les 2 lits restants, un peu partout, l'important étant qu'ils ne se baladent pas dans tous les sens. « On a terminé ?»«
Oui. Maintenant, détachez tunnel. »«
C'est à vous de le détacher, » protestai-je. « C'est vous qui l'avez fait. »
« Comment procéder ? Question. Moi, intérieur de la boule. »«
Et moi, je ne connais rien à la xénonite. »«
Rotation tunnel, »
dit-il en mimant le geste de tourner avec 2 bras. « D'accord, d'accord. » J'attrape la combinaison d'AEV. « Je m'en occupe. »« Connard. » »«
Dernier mot inconnu.
»« Pas important. » Je me glisse à l'intérieur de la combinaison, dont je referme la trappe arrière. Rocky est un expert en maniement de ses aimants. Il est capable de manipuler ses bagages pourvus de plaques métalliques sans quitter sa sphère, de les ranger à sa convenance. Lorsqu'il arrive que le sac qu'il utilise comme ancre se décroche, l'envoyant flotter à la dérive dans le dortoir, il m'appelle à la rescousse. J'attends dans ma couche et je le regarde faire. Étape numéro 1, attraper des échantillons d'astrophage. Oui, oui. Il tend deux mains devant lui et en fait tourner une autour de l'autre. Planète tournée autour tôt. Astrophage allé là-bas depuis tôt. Pareil Eridani. Astrophage produire plus astrophage là-bas avec dioxyde de carbone.
Oui. Vous avez pris des échantillons?
Non. Vaisseau possédait dispositif pour cela, mais dispositif cassé.
Vous n'avez pas réussi à le réparer?
Pas mauvais fonctionnement. Dispositif cassé. Tombé pendant voyage. Dispositif disparu.
Ah, pourquoi s'est-il cassé?
Pas savoir,
avoue-t-il en s'agitant dans sa carapace.
Nombreuses choses cassées. Éridien construire vaisseau très vite. Pas le temps tester solidité.
Les délais trop serrés causent des problèmes aux quatre coins de la galaxie.
Tenter fabriquer remplacement. Échec. Essayer. Échec. Essayer. Échec. Mis vaisseau sur chemin astrophage. Quelques-uns peut-être collés sur coque. Mais robots incapables récupérés. Astrophage très petit.
Sa carapace s'affaisse et ses coudes se retrouvent au-dessus de ses évents de respiration. Il lui arrive de s'affaisser lorsqu'il est triste, mais je ne l'ai jamais vu abattu à ce point. Sa voix descend d'une octave.
Échec, échec, échec. Moi, Éridien réparation. Moi, pas Éridien science. Éridien science intelligent, 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 mais mort.
Hé, hey, il ne faut pas penser à ça.
Pas comprendre.
Je me hisse à hauteur de sa pile de sacs. Vous êtes en vie. Et vous êtes ici. Vous n'avez pas abandonné.
Essayez tellement de fois, insiste-t-il d'une voix grave. Échouez tellement de fois. Mauvais scientifique.
Je suis là maintenant. Vous êtes bon pour réparer et fabriquer des objets. Ensemble, nous trouverons une solution.
Oui.
M'approuve-t-il en se redressant un peu.
« Ensemble. Vous capacité prélever échantillon ?» Question.
L'unité de collecte extérieure. Je me rappelle avoir vu ce nom lors de ma première journée dans la salle de contrôle. Sur le coup, je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais il doit s'agir de cela. Oui, j'en ai la capacité.
Soulagement. Essayez tant de fois. Échec.
Il sombre dans un silence prolongé.
Passer beaucoup de temps ici, beaucoup de temps seul.
Combien de temps?
Besoin nouveau mot, répond-il après une pause.
Je décolle mon ordinateur du mur. Nous apprenons de nouveaux mots chaque jour, même si cela devient de plus en plus rare, ce qui est extraordinaire en soi. J'ouvre mon analyseur de fréquence ainsi que mon dictionnaire. Prêt.
7776 secondes, se dit. Éride rotation en un.
Je reconnais immédiatement ce nombre. Je l'ai rencontré lorsque j'ai étudié l'horloge de Rocky. 6 puissance 5 égale 7776. C'est le nombre de secondes éridiennes qu'il lui faut pour compléter un cycle. Les éridiens ont divisé leur journée en un nombre pratique et, pour eux, métrique de secondes. Jusque-là, je comprends. C'est une journée éridienne. Je tape sur mon ordinateur. Une rotation est égale à une journée.
Compris. Éride tourne autour Éridani en 198,8 journées. 198,8 journées, se dit.
Une année, dis-je en pianotant. Une planète tourne autour de son étoile en une année. C'est donc une année éridienne.
Nous garder unité terrienne, plus facile pour vous. Combien durée journée terrienne? Question. Combien journée une année terrienne? Question.
Une journée terrienne dure 86 400 secondes. Une année terrienne dure 365,25 journées terriennes.
Compris. Moi ici, 46 années.
46 ans? J'étais stupéfait.
46 années terriennes ?
Moi, ici, 46 années terriennes, oui.
Il est arrivé dans ce système avant ma naissance. Combien de temps vivent les Éridiens ?
Moyenne, 689 années, répond-il en agitant une pince.
Des années terriennes ?
Oui, confirme-t-il un peu sèchement. Toujours années terriennes. Vous, mauvais mathématiques, toujours années terriennes.
J'en reste bouche bée. Combien d'années avez-vous vécu ?
291 années.
Il fait une pause.
Oui, années terriennes.
Saperlipopette ! Rocky est plus vieux que les États-Unis. Il est né à la même époque que George Washington. Et il n'est pas si vieux pour un Éridien. De vieux Éridiens étaient déjà nés lorsque Christophe Colomb a découvert les Amériques. Et les gens qui y habitaient depuis longtemps.
Pourquoi tellement surpris ? Question. Combien de temps humains vivent ? Question.